Il sera question d'histoire.
Au mois de mai 1936, des grèves sans précédent éclatent en France. Pour la première fois, les ouvriers occupent les usines sous les yeux médusés de leurs patrons. Le mouvement se propage chez les commerçants, les garçons de café, les coiffeurs, les agriculteurs, et ils sont bientôt 2 millions de grévistes à descendre dans la rue. Dans une ambiance de gigantesque fête populaire, des bals sont organisés dans les usines tandis que des parties de cartes s'improvisent au son de l'accordéon. Surnommés les grévistes de la joie, ils fêtent la victoire du Front populaire, une coalition des partis de gauche aux élections législatives.
C'est avec ce son de la chaîne Lumni de septembre 2020 que commence cette première de deux visites en forme de cours d'histoire sociale et bien vivante. Bonjour et bienvenue dans cette 28e visite de la saison 7 du Panthéon décousu sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. Cette semaine, actualité oblige, je vous invite à replonger dans le contexte de l'émergence du Front populaire, le vrai, l'originel, celui des années 30. Bien sûr, les passerelles avec notre année 2024 semblent nombreuses, mais elles sont parfois, souvent, très hasardeuses. Tout d'abord parce que 90 ans après, beaucoup de choses ont changé, mais nous vivons encore sur les ruines et la mémoire de pans entiers de notre histoire mondiale. Bref, retour en 1931 avec cet extrait du doc 1929-39 « L'engrenage ». La France commence à subir tout juste la crise née du krach boursier de 1929.
La crise mondiale finit par rattraper l'économie française. Des entreprises font faillite. Le chômage progresse lentement, mais sûrement. Et une grande partie de ces chômeurs ne reçoit aucune allocation. À partir de 1933, les marches de la faim se développent dans le pays. Crise économique, mais aussi crise politique. La Troisième République, avec son régime parlementaire, est contestée. À la Chambre des députés, les forces de droite et de gauche sont alors presque égales. Mais le plus grand parti d'opposition de gauche, la SFIO, socialiste, se tient à l'écart des gouvernements. Plus à gauche, le Parti communiste français prend alors pour modèle l'Union soviétique de Lénine et de Staline.
En 1977, le grand journaliste Claude Santelli réalise pour TF1, oui, TF1, un doc passionnant, 1936, où la mémoire d'un peuple, d'où viennent pas mal de sons aujourd'hui.
Mon instituteur laïque m'avait enseigné la République et la justice, la fraternité des peuples, l'horreur de la guerre.
Et à droite, se développe une multitude de groupes et de ligues, comme les Croix de Feu, les Camelots du Roi ou l'Action Française.
Ils veulent en finir avec ce régime parlementaire instable et restaurer un pouvoir fort.
Les mouvements sont unis par leurs valeurs nationales et souvent autoritaires. Mais leurs programmes varient. Ils sont parfois en faveur de la République, parfois royalistes, ou même parfois proches du fascisme.
Et ô combien antisémites ! Et déjà l'embrigadement de la jeunesse.
Sortez les métèques. Gilles Martinet.
Il y avait 80 000 étudiants à l'époque, 800 000 aujourd'hui. Vous voyez la différence. Sur ces 80 000 étudiants, à peu près 15 000 adhéraient à des organisations que nous appellerions aujourd'hui d'extrême droite. La Jeunesse Patriote et l'Action Française, qui avait le plus d'influence. Et au moment de notre plus grande force, nous avions rassemblé étudiants communistes et socialistes dans une même organisation qui s'appelait l'Union Fédérale des Étudiants. Nous étions 5 000. Alors le rapport de force nous était très défavorable. Il y a eu en 1935, je crois, une grève qui s'appelait ouvertement « grève contre les métèques » et qui était traduit, comme, dans beaucoup de cas, comme « grève contre les juifs ». Eh bien, à Paris, nous avons réussi seulement à sauver, c'est-à-dire à maintenir ouverte, la Sorbonne, faculté des lettres et des sciences. Mais la médecine, le droit, la pharmacie étaient en grève. Les étudiants étaient sensibles à l'idéologie, au thème nationaliste. Et sous la forme la plus brutale. Je me souviens de distributions de tracts où l'on disait à tel et tel de mes camarades « Toi, tu n'as pas le droit d'être ici, tu es juif ».
Déjà, ça glace le sang. Et ce n'est que le début. Une affaire judiciaire devient médiatique et s'envenime en cabale.
L'affaire Stavisky met bientôt le feu aux poudres et provoque une crise politique qui va changer le cours de l'histoire. Le 9 janvier 1934, Serge-Alexandre Stavisky, un escroc richissime recherché par la police pour détournement de fonds, est retrouvé mort à Chamonix. L'opinion publique ne croit pas à la thèse du suicide. Des hommes politiques de premier rang, complices, l'auraient assassiné pour le faire taire.
Assassiné, suicidé, par qui? De là, deux certitudes, le gouvernement tombe et les ligues s'enflamment jusqu'à cette soirée où la République trembla, vacilla.
Le 6 février 1934, les ligues de droite et d'extrême droite lancent des manifestations. Des manifestants s'attaquent violemment à la Chambre des députés. Pour la protéger, la gendarmerie ouvre le feu. On compte 15 morts. Pour la droite extrême, le gouvernement démocratique est coupable. Pour la gauche, au contraire, c'est la République qui s'est défendue in extremis face à la menace fasciste.
Autant dire vrai, tentative de coup d'État fasciste.
Et quelques jours plus tard, le 12 février, face aux Ligues et à l'extrême droite, les partis communistes et socialistes appellent à manifester. Les deux partis ont en fait de mauvaises relations.
Le 12 février, ils sont là. Deux cortèges. La gauche, c'est-à-dire les deux familles, les deux maisons du socialisme, les frères séparés de 1920, les divorcés de Tours. Depuis 14 ans, ils n'ont échangé que des invectives.
C'est au congrès de Tours, en 1920, que s'est scindée la gauche entre socialistes et communistes.
Laurent Salini, éditorialiste à l'Humanité.
Ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous différencie, ce qui nous sépare du Parti Socialiste, donc ce qui nous a séparés de Léon Blum. Bien sûr, la scission, le départ de la minorité à Tours, mais surtout une conception radicalement différente des choses, profondément différente, entre lesquelles il ne peut pas y avoir de rapprochement fondamental, je dis bien fondamental. Cette conception, c'est que nous pensons que pour aller à la révolution, il faut combattre dans toutes les circonstances la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, le Parti Socialiste, la social-démocratie en général, ont cherché des accommodements avec la bourgeoisie. Souvent, moins souvent, selon les pays, quelquefois jusqu'au drame, c'est le cas de l'Autriche, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Italie, mais en ligne de principe, c'est ainsi que se sont développés les partis socialistes.
Oui, vous savez, les amateurs de points Godwin vous titillent vicieusement à vous rappeler les racines soi-disant socialistes de Mussolini et d'Hitler. Retour au 12 février 34 où 4 millions de sympathisants de gauche convergent vers la place de la Nation à Paris.
Ils sont là de chaque côté de la place. Ils marchent les uns vers les autres. Ils vont peut-être s'affronter. Charles-André Julien est aux côtés de Blum. C'est là qu'il a vu de ses yeux naître de cette foule le Front populaire. Charles-André Julien m'enseignait l'histoire. Il m'a tout appris cette année-là, l'histoire, la démocratie, la liberté, le socialisme.
Quand j'ai demandé d'entrer au Parti Socialiste, le vieux homme qui était très 48-art et communard m'a infligé, si je puis dire, infligé un stage de un an dans le mystère, dans l'anonymat, à faire des articles, des enveloppes, et au bout d'un an, il m'a donné l'autorisation d'entrer dans le parti, comme s'il me faisait un honneur. Eh bien, cela marque pour la vie politique. Et le fait que j'ai passé une partie de mon enfance auprès de Jaurès, le fait que j'ai connu des hommes comme Ho Chi Minh, comme Léon Blum, comme Lénine, comme Trotsky, comme Enver Pacha, je ne sais combien d'exemplaires d'humanité au-dessus de la moyenne, faisait que je pouvais faire pénétrer dans l'histoire ce que j'appellerais l'expérience. Brusquement, à la Nation, au moment où on s'y attendait le moins, débouche une immense foule de communistes arrivant du cœur de Paris dont on ignorait qu'ils étaient là. Et ils venaient vers nous et nous allions vers eux. Et alors, Blum, Blem, tous terrifiés, nous ont dit « Qu'est-ce que va être cette rencontre? Qu'est-ce que va être ce heure si l'on se bat? C'en est fini !» Et alors, On s'est approché. Je me souviens, Rosenfeld me prenant la main et la serrant. Et puis tout d'un coup, tous les gens sont embrassés, sont pris par le cou, par le bras. C'était une chose extraordinaire. Je n'ai jamais vu une chose pareille de ma vie. Les gens criant l'unité, unité, se promenant, chantant l'international, etc. Ils nous tous qui ébahis, regardons cette force, cette montée de foule populaire, cette, comment dirais-je, cet impératif catégorique que nous imposait le peuple par-delà toutes les divergences. Ce jour-là, pour moi, le Front populaire était fait. Je suis ridicule encore de vivre cela avec une émotion qui n'est pas normale. Mais enfin, il y a des choses qui marquent dans une vie. Et jamais je n'ai eu la sensation de ce qu'était le peuple, la volonté du peuple, par-delà tous les scrupules des intellectuels, qui s'impose. Et peut-être cette admirable symbiose entre le peuple et les intellectuels, ce qui va être la caractéristique du Front populaire.
Un moment historique, son historique, extrait du discours de Léon Blum ce 12 février 1934. Par conséquent, son d'époque.
Paris, rassemblé dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas.
Vive la République des travailleurs! Vive la liberté! Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible! Vive le peuple ouvrier de Paris!
Je n'ai jamais été très sensible au charme de Blum. C'est un homme évidemment d'une intelligence exceptionnelle, d'un charme exceptionnel d'ailleurs aussi, n'est-ce pas? Mais d'un excès d'intelligence, voyez-vous. Presque, à l'époque, je n'employais pas ce mot, mais je dirais aujourd'hui, en état permanent de péché d'intelligence. L'intelligence rhétorique, l'intelligence excessivement analytique, une intelligence scolastique qui se perdait dans ses propres détours et qui me donnait à moi une impression d'irréalité.
En prenant la parole ce jour, le dirigeant socialiste Léon Blum se pose en leader d'une gauche qui pourrait s'unir.
Hélas, le plus intelligent qu'il soit, Léon Blum devient de plus en plus la bête noire de l'extrême droite.
Charles Maurras, 9 avril 35.
Ce juif allemand naturalisé, ou fils de naturalisé, qui disait aux Français en pleine chambre qu'il les haïssait, n'est pas à traiter comme une personne naturelle. C'est un monstre de la République démocratique. Et c'est un irkosser de la dialectique Heimatlos. Détritus humain à traiter comme tel. L'heure est assez tragique pour comporter la réunion d'une cour martiale qui ne pourrait fléchir. Monsieur Rebel demande la peine de mort contre les espions. Est-elle imméritée des traîtres? Vous me direz qu'un traître doit être de notre pays. Monsieur Blum, en est-il? Il suffit qu'il ait usurpé notre nationalité pour la décomposer et la démembrer. Cet acte de volonté, pire qu'un acte de naissance, aggrave son cas. C'est un homme à fusiller, mais dans le dos.
Abject. Les miliciens de Vichy et collabos des nazis ne vaudront pas mieux durant la guerre. En fait, l'antisémitisme est un peu partout à l'époque. Écoutez cette chanson, que dis-je, ce tube de Ray Ventura, c'est de 36, écoutez bien les paroles à la fin de ce couplet.
On a la triste habitude de couper la queue des chiens, des gens pleins de sollicitude trouvent que cela ne fait pas bien. Cette petite queue que l'on mutile dit quelqu'un, c'est pas joli, mais d'une façon subtile, Blumenthal dit à Lévi.
Oh, 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 oh. Ça vaut mieux que la valise la porte aura. Ça vaut mieux que la sucette à Nathalie. Ça vaut mieux qu'on perde le soir au pont d'Alma.
N'est-ce pas, hein? Autre couplet, les agressions sexuelles dans les transports.
Dans le métro, quand il y a foule, on ne sait pas où s'accrocher. Et tandis que le train roule, on ne fait que trébucher. L'autre jour, quelqu'un s'exclame, mais vous m'attrapez les seins. Je lui ai répondu, madame, y a pas de quoi faire ce potin.
Oh, c'est à moi, vraiment. Comme on parlait de supplice dans un salon tricoté, quelqu'un dit aux îles Maurice, j'ai vu des gens empalés. Oh. Chacun dit, c'est sanguinaire, mais un jeune homme ravi s'écria, écoute ma chouette, si vous voulez mon avis.
Et ce combo racisme plus homophobie, charmant, impensable aujourd'hui, mais classique de jadis. Bref, une entente tripartite va reformer un cartel des gauches.
Le socialiste Léon Blum, le communiste Maurice Thorez et le radical Édouard Daladier forment une alliance électorale en vue des élections législatives de mai 1936. Ensemble, ils veulent transformer la société. Leur slogan, pain, paix, liberté. Le Front Populaire est né.
Slogan, pain, paix, liberté, qui me rappelle celui salutaire des Iraniennes de 2023, femme, vie, liberté.
En 1935, la crise économique s'amplifie. Et le programme de rigueur du gouvernement de Pierre Laval n'améliore pas la situation.
Oui, oui, Pierre Laval. Ne prenant pas sa carte de la CFIO depuis 1923, il sera classé divers gauche et, en plus d'être maire d'Aubervilliers jusqu'à la Libération, sera ministre de gauche, de plus en plus centriste jusqu'à un gouvernement divers droite avant la carrière vichyste qu'on lui connaît. Un parfait exemple d'arrivisme. Allez, parlons plutôt d'un chic.
Dit Jean Guéhenno, le petit ouvrier de Fougères devenu combattant de la vérité. Jean Guéhenno, mon professeur.
C'est ici que j'ai appris à parler. Ma langue était pleine de provincialisme. Le mot logos en grec désigne à la fois le langage et la raison. C'est ici que j'ai appris que le langage devrait être toujours la raison même. Et je dirais que toute ma politique après, étant donné ce que j'avais vécu auparavant, a été pour faire en sorte, c'est une politique morale, toute morale, pour faire en sorte que, effectivement, la politique devienne une morale.
Pour plagier le général de Gaulle au sujet de l'ambitieuse éradication de la connerie, de Gaulle a déclamé « Vaste programme ».
14 juillet 1935, un prologue. Le printemps du peuple a éclaté. Un programme commun, même succinct, vient d'être signé par les partis. On parle de rassemblement populaire. La foule dans le soleil vit l'unité, l'espérance toute proche. Les professeurs sont là. Ils ont dressé le décor, trouvé les formules. Guéhenno a rédigé le serment sur le modèle de 1790. On ne compte plus les manifestes, les appels, les rassemblements. Jean Guéhenno, dès 1934, a fondé le comité de vigilance des intellectuels antifascistes.
Unis par-dessus toute divergence, devant le spectacle des émeutes fascistes de Paris et de la résistance populaire qui seule leur a fait face, nous venons déclarer à tous les travailleurs, nos camarades, notre résolution de lutter avec eux pour sauver contre une dictature fasciste ce que le peuple a conquis de droit et de liberté publique. Nous sommes prêts à tout sacrifier pour empêcher que la France ne soit soumise à un régime d'oppression et de misère belliqueuse. Nous ne laisserons pas invoquer la vertu par les corrompus et les corrupteurs. La colère que soulèvent les scandales de l'argent, nous ne la laisserons pas détourner par les banques, les trusts, les marchands de canons contre la République, contre la vraie République, qui est le peuple travaillant, souffrant, pensant et agissant pour son émancipation. Nous ne laisserons pas l'oligarchie financière exploiter, comme en Allemagne, le mécontentement des foules gênées ou ruinées par elles. Camarades, sous couleur de révolution nationale, on nous prépare un nouveau Moyen-Âge. Nous n'avons pas à conserver le monde présent. Nous avons à le transformer, à délivrer l'État de la tutelle du grand capital.
Le titre complet du comité de vigilance des intellectuels, c'est des intellectuels antifascistes. Je tiens bien à ce mot antifasciste. Car prenez garde, les fascistes peuvent faire le bonheur des hommes. C'est ça qui est affreux. Mais après tout, qu'est-ce que c'est que le fascisme? Si on le regarde à sa naissance, mais c'est une copie du socialisme. C'est l'une des copies du socialisme.
Ok, mais avec plein d'options bien crispantes, du genre démagogie, populisme, empapaoutage des esprits, restriction maximum des libertés, mais du pain, des jeux, etc.
Ce jour-là, 14 juillet 1935, Jacques Duclos, dans un discours célèbre, magnifie le drapeau tricolore et Jean Perrin, le prix Nobel, ajoute:
ils nous ont pris Jeanne d'Arc, cette fille du peuple abandonnée par le roi que l'élan populaire venait de rendre victorieux et brûlée par les prêtres qui depuis l'ont canonisée. Ils ont essayé de vous prendre le drapeau de 89, ce noble drapeau tricolore des victoires républicaines de Valmy, de Jemmapes, de Hohenlinden, de Verdun. Ce drapeau qui tout à l'heure, à nouveau coiffé du bonnet phrygien de 92, va flotter au-devant de nos troupes, symbole des libertés que vous avez conquises, à côté de ce drapeau rouge devenu celui de l'Union soviétique et qui, lui, symbolise l'espérance des malheureux. Ils ont enfin essayé de nous prendre cette héroïque Marseillaise, ce chant révolutionnaire et farouche qui fit trembler tous les trônes d'Europe, en ce temps qu'il ne faut tout de même pas oublier où notre grande République appela la première tous les peuples à la liberté. Cette Marseillaise qui a été pendant un siècle le chant des peuples opprimés et de la Russie elle-même. Cette Marseillaise de rude qui sculpta son envol sur cet arc de triomphe qui abrite votre frère inconnu et où vous n'avez pas le droit de passer.
Et oui, les images existent, le défilé de ligue type Action française devant le monument de Jeanne d'Arc à Paris, comme le firent d'autres des 1er mai bien plus tard. Pauvre Jeanne d'Arc qui fut également une icône laïcarde des bons manuels républicains de Jules Ferry et quelques autres. Allez, pour décompresser, témoignage savoureux du comédien Raymond Bussière, gueule immortelle du Cinoche des années 30 à 80, de Clouseau à Claude Didi. Il nous raconte son Jacques Prévert, et oui.
Nous étions passionnés de vivre. Et c'est pourquoi on s'occupait aussi bien de politique que d'art et de tout. Ainsi, tenez, on a fondé, avec quelques camarades, un groupe de théâtre. Plus exactement, les gens l'ont appelé un groupe de théâtre. Alors que pour nous, c'était un groupe d'agitation, de propagande, d'agit-prop. C'est-à-dire que, au lieu de faire une distribution de tracts dans la rue, nous faisions une distribution de tracts oraux. Il y avait un événement quelconque qui se passait, on faisait un texte et on allait le dire dans la rue, parmi les gens, etc. Et ce groupe ne s'est jamais occupé vraiment d'art. Il s'occupait de la révolution. On voulait faire la révolution pour après-demain. Et nous avons eu la chance de rencontrer un monsieur un jour sur le conseil de Vaillant Couturier qui m'a dit: va voir un certain monsieur, il a l'air intéressant, ça a l'air d'un vrai personnage. Il s'appelle Jacques Prévert. Et nous avons rencontré Jacques Prévert. Et de ce jour, Jacques a écrit à la commande. Tenez, un exemple précis. Un jour, j'apprends qu'il y avait une grève qui venait se déclencher chez Citroën. J'avais cet avantage, comme j'étais à l'hôtel de ville, moi j'avais le téléphone gratuit. J'alerte les copains et j'alerte surtout Prévert. Il devait être 2h de l'après-midi et je dis à Jacques, il y a une grève chez Citroën, il faut nous faire un texte sur Citroën. Et le soir, on travaillait tous, sauf les chômeurs naturellement, on se retrouve à 6h à la maison des syndicats, là où il y a maintenant le bel immeuble du Parti communiste qui, à cette époque-là, était simplement des baraquements.
Et qui n'était pas place du colonel Fabien.
Et on se retrouve là avec un texte de Jacques. On apprend ce texte de Jacques et à 8h, on le donnait devant les ouvriers de chez Citroën en grève. C'était l'époque où Citroën faisait de la réclame sur la tour Eiffel. C-I-T-R-O-N, Citroën, C-I-T-R-O-N.
À la verticale, en grosses lettres lumineuses.
C'est une belle réclame sur la tour Eiffel quand même. Et il y avait cette petite copine d'ailleurs qui rentrait et qui disait d'un petit air modeste et un peu gêné, qui disait « À la porte des maisons closes, c'est une petite lueur qui lui, quelque chose de discret, une petite lumière, un quinquet. » Et je rentrais en disant « Oui, mais sur Paris endormi, une grande lumière monte sur la tour. C'est la lumière du bordel capitaliste avec le nom du taulier qui brille dans la nuit. » C'est un joli texte, non ? Puis il disait bien ce qu'il voulait dire.
Ah ça, si vous ne connaissez pas bien la prose de Jacques Prévert, ne vous étonnez pas d'en découvrir encore. Parole. Sur ce, cette 28e visite de la saison 7 du Panthéon des Cousus va bientôt se refermer. Podcast bientôt disponible sur les bonnes plateformes et sur radioalpa.com. Mais ne nous quittons pas sans musique et sans un autre tube de 36. Parole de Jean Noin, musique de Mireille, fermée jusqu'à lundi. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et n'oubliez pas, le printemps des cœurs n'est pas un vain espoir.
Pendant toute la semaine, enfermé dans le bureau, on attrape la migraine, on travaille beaucoup trop. Mais la fin de la semaine s'amène, on dit ce n'est pas trop tôt. Quand on a pris tant de peine de prendre un peu de repos. Lorsque l'horloge sonne midi, au bureau plus personne jusqu'à lundi. Et si l'on téléphone, eh ben tant pis. Le patronne, tout le monde est parti. Michel est à la pêche, Lulu chez des amis. Et Robert se dépêche d'aller retrouver Mimi. Sur la porte, avis, aux raseurs de toutes sortes, fermés jusqu'à lundi. Lorsque l'horloge sonne midi, au bureau plus personne jusqu'à lundi. Et si l'on téléphone, eh ben tant pis. Le patron, la patronne, tout le monde est parti. Michel est à la pêche, Lulu chez des amis. Et Robert se dépêche d'aller retrouver Mimi. On a mis sur la porte avis aux raseurs de toutes sortes, fermés jusqu'à lundi.
Car prenez garde, les fascistes peuvent faire le bonheur des hommes. C'est ça qui est affreux.